France Inter. France Inter, le 18-20, Fabienne Saint-Est.
Un jour dans le monde, c'est un jour entre Israël et Gaza ce soir encore. Et ce qu'on entend là, ce sont les Palestiniens de Rafah qui célébraient hier ce qu'ils croyaient être une trêve à venir, puisque le Hamas avait dit oui aux conditions. Et puis tout a changé depuis. En quelques heures seulement, c'est parfois difficile à suivre et c'est ce qui fera l'objet de notre discussion. Bonsoir, Yigal Palmor.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Monsieur Palmor, au moment où on se parle, donc l'offensive israélienne a commencé sur Rafah, en tout cas une offensive israélienne, on va y venir, alors que le Hamas avait accepté une proposition de trêve de l'Égypte et du Qatar qu'Israël ne valide pas. Et c'est vrai qu'on a du mal à savoir dans le camp de qui est la balle au moment où on se parle. Est-ce que vous aussi, vous avez du mal à répondre à cette question ?
Oui, c'est très compliqué de savoir ce qui s'est passé, parce que ça ne correspondait pas au cours des choses telles qu'on le connaissait. Il y avait une proposition qui a été déjà acceptée par Israël, approuvée par Israël, qui a été soumise par les médiateurs au Hamas. On attendait la réponse du Hamas, une réponse qui s'est fait attendre. Le secrétaire d'État américain Blinken avait annoncé à plusieurs reprises que c'était une excellente proposition, très généreuse. Et puis, il s'est passé deux choses. D'abord, un barrage nourri de roquettes il y a deux jours sur le point de passage frontalier Kerem Shalom entre la bande de Gaza et Israël. Ça, c'est une chose. Et puis, le jour où les forces israéliennes commencent une opération à Rafah, tout d'un coup, le Hamas annonce qu'il accepte un texte qu'on ne connaît pas et dont les détails qui ont été publiés ne correspondent pas du tout à la proposition qui a été faite par Israël à travers les médiateurs.
Mais du coup, vous dites, Monsieur Palmor, je ne sais pas très bien dans quel sens ça s'est fait, que alors que l'offensive commence à Rafah, le Hamas accepte un texte. Moi, j'avais compris que le Hamas acceptait un texte et que démarre l'offensive à Rafah. Est-ce qu'on sait encore une fois dans quel sens ça se passe, et je vais même vous le demander comme ça, Monsieur Palmor, est-ce que ça a du sens de savoir dans quel sens ça avance ?
Pour tout dire, il est impossible de savoir à la minute près quelle démarche a précédé, quelle autre démarche. Ça s'est passé à peu près simultanément. Mais en tout cas, lorsque le Hamas communique sa réponse positive, il ne le communique pas à Israël, ni aux médiateurs d'ailleurs. C'est une annonce publique, donc ça prend tout le monde de court. Personne ne s'y attendait, ni les médiateurs, ni Israël. On ne sait pas de quoi il s'agit, et quand on croit connaître les détails, eh bien, ce n'est pas la version qui a été approuvée.
Il y a des analyses qui disent, on l'a lu ce matin dans Haaretz notamment, mais pas seulement, qui disent que Benjamin Netanyahou, au fond, a été piégé par le Hamas. C'est-à-dire qu'il ne pensait pas une seconde que le Hamas dirait oui à cette trêve, et qu'il se retrouve donc dans l'obligation de faire marche arrière, voire de commencer l'offensive à Rafah. Netanyahou pris au piège, vous croyez à cette version? Ou pas, vous ?
Oui, je crois qu'il a été piégé par le Hamas, mais il s'était attendu à un piège depuis le début. Il n'avait aucune confiance dans la sincérité de la négociation du Hamas. Et pour tout dire, assez peu de confiance dans les médiateurs qataris et égyptiens. Et donc, il s'attendait à un piège. Le piège est effectivement arrivé. Il a été tendu. Et donc, voilà, la communication d'un accord qui n'est pas celui qu'on avait accepté, avec un nombre réduit d'otages à libérer, ce qui est inacceptable.
C'était 33, c'est ça, de ce que j'ai lu, moi. Mais on a du mal à savoir d'où vient ce chiffre. C'était 33 sur 132, si je ne me trompe pas.
C'était, alors, c'était 33 en une première phase dans la proposition qui a été soumise au Hamas. Et le texte que le Hamas annonce avoir accepté parle de 22 otages. Donc, évidemment, on ne comprend pas pourquoi ça a été revu à la baisse, et bien entendu que c'est inacceptable.
Du coup, au moment où on se parle, Yigal Palmor, est-ce qu'on sait si oui ou non les négociations se poursuivent, si on rediscute les termes de l'accord, est-ce qu'on sait d'un point de vue de négociation d'où on est reparti et si on est reparti?
Alors, il y a une délégation de négociateurs israéliens qui doit être dépêchée au Caire dans les heures qui viennent, si elle n'est pas déjà partie. Et cela veut dire qu'il y a urgence à voir exactement quel est le texte qu'on est en train de négocier. Mmh. Et il y a une intention très claire, à tout le moins de la part d'Israël, de continuer la négociation et de parvenir à un accord. Mais il faut quand même tirer les choses au clair d'abord.
Et vous allez rester avec nous, Yigal Palmor. Je voudrais qu'on accueille Thibault Lefèvre qui est avec nous. Bonsoir Thibault.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Le correspondant à Jérusalem, Thibault, c'est vous. J'aimerais que vous nous disiez ce que l'on sait, Thibault, de ce qui se passe depuis ce matin à Rafah, très exactement.
Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà des troupes au sol israéliennes au sud de Rafah, qui est la zone la moins dense de la ville, des forces spéciales appuyées par des blindés et de l'infanterie. On sait aussi que l'armée de l'État hébreu bombarde massivement l'est de la ville, après avoir demandé hier matin à plus de 100 000 civils d'évacuer vers le nord. On sait qu'elle occupe le terminal de Rafah, c'est à 3,5 km de l'Égypte, et c'était jusque-là le seul point d'entrée dans l'enclave qui lui échappait. Mmh. L'armée israélienne qui déploie ses chars à la lisière de la péninsule du Sinaï, le long de ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie. L'objectif étant vraisemblablement de contrôler les tunnels entre les deux pays et d'assécher les potentielles livraisons d'armes ou d'essence. La conséquence, c'est que l'aide humanitaire ne passe plus au sud de Gaza, ni par Rafah, ni par Kerem Shalom. C'est l'autre point de contrôle, attaqué à deux reprises, Yigal Palmor le disait tout à l'heure, attaqué à deux reprises par le Hamas ces dernières 48 heures. L'ONU affirme avoir en réserve que 24 heures de fuel pour faire fonctionner ces installations. Alors que Rafah est habité par plus d'un million de déplacés, c'est une population qui a été multipliée par 4 depuis le début de la guerre.
Thibault Lefèvre, il y a autre chose que vous percevez, que j'aimerais bien que vous nous expliquiez, c'est la prudence de l'armée israélienne dans sa communication autour de Rafah.
Oui, on a eu un point presse ce matin. Vous savez, on est convoqué par des groupes WhatsApp en anglais et les termes ont été plutôt pesés, voire sous-pesés. L'armée a parlé d'opérations de contre-terrorisme, non pas d'une attaque d'ampleur. Du bout des lèvres, un de ses porte-parole a utilisé ce matin l'expression opération au sol, ground operation, mais en précisant immédiatement et en répétant que les raids étaient ciblés sur la base de renseignements précis. L'armée israélienne, en fait, ne semble pas à l'aise avec cette décision du cabinet de guerre que beaucoup rejettent, à commencer par, vous le savez, l'allié américain, sous la pression de son opinion publique, et puis ici par les familles d'otages et leurs nombreux soutiens, désespérés après avoir cru hier pendant à peine 2 heures qu'un accord était à portée de main. Alors la question qui se pose désormais, c'est tout simplement de savoir jusqu'où Israël va aller. Yoav Gallant, c'est le ministre de la Défense, a donné tout à l'heure des éléments de réponse. Deux raisons peuvent, selon lui, pousser l'État hébreu à mettre fin à son offensive au sol, la libération des otages ou la destruction du Hamas. Les intentions sont très claires, alors que les négociations continuent ce soir au Caire et que je vous confirme que la délégation israélienne est arrivée en Égypte.
Et merci beaucoup Thibault Lefèvre, merci vraiment pour ces précisions. Yigal Palmor, qu'est-ce que vous en dites, vous, de là où vous êtes? Est-ce que ce qui se passe à Rafah en ce moment, c'est l'attaque attendue et même annoncée depuis longtemps? Est-ce qu'on est dans autre chose?
Ce n'est pas l'attaque que demande, qu'appelle de ses voeux en tout cas, l'aile droite et jusqu'au boutiste du gouvernement. C'est clair, ce n'est pas une attaque qui couvre la totalité de la surface de la ville, mais c'est une opération militaire au sol qu'on ne peut pas, sur la nature de laquelle on ne peut pas se tromper. C'est bien une opération militaire qui cible des tunnels et des objectifs du Hamas. Et donc, c'est soit le début d'une opération plus vaste, soit une opération plus limitée qui vise quand même à mettre la pression sur le Hamas dans les circonstances actuelles.
Est-ce que ça ne plaide pas pour le fait que de toute façon ces négociations, même si elles ont repris, même s'il y a des négociateurs en route, finalement sont totalement dans l'impasse, parce qu'on a d'un côté Israël qui entend effectivement, et qui l'a déjà dit, éradiquer le Hamas, et le Hamas qui entend avoir un cessez-feu permanent maintenant. Il ne peut pas y avoir de juste milieu entre ces deux positions au moment là où on se parle, Yigal Palmor. Ça semble en tout cas irréaliste.
Oui, ça semble irréaliste, mais toute la situation depuis le 7 octobre est irréaliste. On a annoncé déjà à plusieurs reprises l'impasse. Moi-même, je n'y ai plus cru. Hein. Mm-hmm. Je croyais que tout était fini. Mm-hmm. Et pourtant, les négociations avaient repris. Et on s'est quand même rapproché d'un accord. Après, bon, il y a les manipulations et les manœuvres que l'on voit, mais la négociation se poursuit.
J'espère qu'on n'a pas perdu Yigal Palmor, parce que j'avais encore une ou deux questions quand même. Thibault, est-ce que vous êtes resté ?
Je suis resté.
Ah, mais c'est formidable. Je voudrais qu'on fasse les deux petites dernières minutes qui nous manquent ensemble, Thibaut. Et s'il nous entend, en tout cas, et qu'il nous cherche également, je voudrais vraiment vous remercier chaleureusement de votre présence chez nous. Quand Rafah sera atteinte, et quel que soit le degré finalement en ce moment, Thibaut Lefèvre, qu'est-ce qui restera à faire, pardon de le dire comme ça, pour l'armée israélienne à Gaza?
Bah, de toute façon, il y a des objectifs de guerre, hein. Ils ont été annoncés et voire martelés, et Benjamin Netanyahou a une certaine cohérence en tout cas par rapport à ce qu'il raconte depuis de nombreux mois. Il veut démanteler le Hamas. Il reste, selon l'armée israélienne, 4 bataillons du Hamas à Rafah. Donc l'objectif est clairement de les mettre hors d'état de nuire. Ces 4 bataillons sur 28 à l'origine avant le 7 octobre. Donc on est vraiment sur la finalisation de cette guerre, de cette opération. Il y a la libération des otages, évidemment. Et puis Benjamin Netanyahou a besoin d'un trophée. Ce trophée, ce serait Yahya Sinwar qui se cacherait dans les tunnels de Rafah.
Thibaut, une dernière question. On a entendu Yigal Palmor nous dire à quel point il était compliqué de s'y retrouver dans ce qui se passe aujourd'hui. On a même entendu jusqu'à quel point lui-même était parfois perdu. Vous l'avez un petit peu évoqué. Moi, je pense aux familles de victimes notamment. Est-ce que vous avez des otages? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est tout le pays, tout Israël, qui a du mal à se repérer en ce moment, que toute cette société israélienne a du mal à se repérer dans ce qui se passe aujourd'hui? On est le 7 mai, je le rappelle. Les attaques, c'était le 7 octobre. Ça fait 7 mois.
Ouais, c'est une société qui est très clivée, hein. Vous savez, je vais vous raconter, hier, j'étais à une manifestation spontanée à Jérusalem avec donc ces familles d'otages qui sont spontanément descendues après ce qui devait être peut-être un début d'accord, ou en tout cas un accord était sur la table, l'annonce du Hamas, et il y avait énormément d'enthousiasme parce que vous avez des gens, vous savez, c'est un petit pays Israël, c'est une société où voilà, tout le monde se connaît, et vous avez des gens qui s'attendaient à revoir potentiellement leurs proches dans les prochaines semaines. Et évidemment, ça a été la douche froide. Et juste pour l'anecdote, à côté de cette manifestation, il y avait des opposants, en fait, qui, eux, prenaient la continuation de la guerre, des combats, et qui ne comprenaient pas qu'on puisse négocier quelque chose avec le Hamas, qu'ils comparaient, pardonnez-moi l'expression, j'ouvre les guillemets, à des nazis.
Thibaut Lefèvre, merci beaucoup. Merci aussi donc à Yigal Palmor, ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien.
Le 18-20, Fabienne Saintès. Sur France Inter.
La suite ce soir dans le 18-20, nous tenons à rendre hommage à Angélique Kourounis ce soir, qui a été notre correspondante pendant des années en Grèce. Elle est morte hier. Nous allons réécouter certains de ses reportages, elle qui nous a fait vivre toutes les crises traversées par la Grèce toutes ces dernières années. Pour aller jusqu'à 19h sous les radars, c'est vous Kevin Dufraîche.
Aux États-Unis, avec un octogénaire qui ne veut pas lâcher la politique, non, ce n'est pas Joe Biden, c'est Bernie Sanders.
Le Monde à 18h50, c'est vous Franck Madvon. Bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Vladimir Poutine vient de prêter serment pour un 5e mandat. On parle beaucoup de ses ambitions militaires et géopolitiques, moins des transformations profondes qu'il impose à la société russe.
Et Caroline au pays des 27, bonsoir Caroline Gillet.
Bonsoir, les élections approchent. Parmi les interrogations, le vote des jeunes. Françoise Blum va dans les classes pour leur parler de démocratie européenne et les réactions des lycéens ne sont pas toujours celles qu'on attend.
Allez, à tout de suite, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par le Royaume-Uni avec la Fight White Family. A Religion for One sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Your fear of failure and ambition. Nous ne pouvions pas, donc, ce soir, dans Un jour dans le monde, ne pas nous arrêter un instant pour rendre hommage à Angélique Kourounis. Angélique est morte hier, c'était la voix de la Grèce sur Radio France depuis toujours. Avec elle, vous avez notamment suivi la crise grecque de 2008, vous avez suivi la montée de Syriza, vous avez suivi l'arrivée des premiers migrants en 2015, vous êtes entré avec elle à Lesbos, à Moria, vous avez suivi les grands incendies, elle a documenté la montée, la présence d'aube dorée, l'extrême droite aussi en Grèce, elle était là pour les journaux de toutes les chaînes de Radio France, bien sûr. Elle était là souvent dans Un jour dans le monde et vous allez pouvoir la réentendre. Elle n'était pas facile à couper d'ailleurs dans son enthousiasme à raconter son pays. Angélique Kourounis, elle racontait aussi les histoires de son pays. Voici un tout petit florilège. Vous allez la réentendre. Ça commence lors de fouilles archéologiques.
Tout le monde est là, le préfet, les pêcheurs, les archéologues, personne ne veut louper cette inauguration spéciale d'un naufrage vieux de 2500 ans, devenu musée sous-marin. Pour l'occasion, c'est Sake Zulvas, vedette du showbiz, qui plonge en apnée à plus de 20 mètres de profondeur pour couper le cordon inaugural. Comme tous les plongeurs, il est sous le charme.
Comment est-ce que les Grecs ressentent cette amélioration des finances publiques, Angélique ?
À vrai dire, ils ne la sentent pas au quotidien. Ils ont vraiment toujours ce sentiment d'avoir été punis par les mémorandums d'austérité imposés par les créanciers du pays pour avoir refusé cette austérité par référendum. Trois mémorandums qui ont mis le pays à genoux pendant 10 ans. Depuis, vous l'avez dit, le pays a renoué avec une reprise, mais les salaires, les retraites, les aides sociales qui ont pratiquement été réduits de moitié, je rappelle que les retraites ont été baissées 13 fois, n'ont jamais, malgré l'amélioration des finances publiques, retrouvé leur niveau d'avant-crise. Le PIB, qui avait chuté de 25% durant la crise, n'a pas non plus remonté la pente. Mais si les finances publiques se sont améliorées, c'est essentiellement parce que les créanciers de la Grèce, l'Union européenne, le FMI et les marchés ont choisi de faire confiance, de donner toutes ces chances à l'actuel Premier ministre qui fait partie de leur famille politique, libérale, ce qu'ils n'ont pas fait pour Alexis Tsipras, Premier ministre de gauche durant la crise économique, qui a duré 10 ans. Et bien au contraire, pourtant, quand il a perdu les législatives en juillet 2019, la Grèce était sortie de la crise et les caisses publiques étaient pleines.
L'image que j'ai, c'est un pays qui est lardé par des rivières de feu et c'est quelque chose qui dure depuis plusieurs jours, 7 jours à l'île de Rhodes et d'après les pompiers, le feu à Rhodes risque de durer encore autant, encore une semaine. Les vents sont toujours très forts, ils sont tourbillonnants et puis les températures tombe un peu aujourd'hui, mais dans 48 heures, on aura de nouveau 44 à 45 degrés. C'est inédit dans le pays et on ne sait pas vraiment comment gérer ça.
La situation est intenable parce qu'ils ont l'impression qu'on les abandonne. Quand vous avez dans un camp une telle surpopulation, des gens qui vivent dans la boue, des enfants constamment malades, des femmes qui accouchent dans des tentes, qui ont des enfants nouveau-nés, qui ne sont pas soignés, avec des rats. J'avais des rats qui grouillaient autour de moi. Et j'ai eu du mal à le supporter, j'étais là que 2 heures. Les gens, ils sont depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et à côté de ça, il y a des arrivées continuelles.
Angélique.
Alors le gouvernement les envoie sur le continent vers d'autres camps perdus au milieu de nulle part où il n'y a rien pour s'occuper de ces gens. Donc ce qui fait que la situation est explosive et aujourd'hui il y avait une manifestation à Athènes.
Sur les routes le long de la frontière gréco-turque, le balai des camions est incessant. La frontière reste hermétiquement fermée, les journalistes sont repoussés toujours plus loin et des deux côtés de la frontière, la bataille de la propagande fait rage. Côté grec, on montre les trous dans les barbelés et les grenades lacrymogènes de fabrication turque qu'on leur jette. Côté turc, on montre des blessés par balles, on parle même de morts à cause de balles tirées par des Grecs selon Ankara, ce que dément formellement Athènes qui parle de fake news et de mise en scène. Ce qui est certain, c'est que ceux qui payent la note, c'est les migrants. Moins nombreux qu'hier, mais toujours présents le long de ces barbelés, ils veulent toujours passer en Europe. Les habitants de la région, eux, encouragés par l'Église, continuent de soutenir les forces armées grecques en préparant pour les soldats des tartes et des plats chauds. Et alors que la nuit tombe, les hommes, dans des milices autoproclamées de défense des frontières, se préparent, eux, à de nouvelles chasses à l'homme. Castagnès, Angélique Kourounis, France Inter.
Alonissos, Angélique Kourounis, France Inter. Athènes, Angélique Kourounis pour France Inter.
La voix d'Angélique Kourounis qui va nous manquer depuis Athènes et ailleurs. On pense très fort à sa famille. Bien sûr, on est heureux d'avoir pu rendre hommage à son travail et lui rendre hommage à elle.
Am logone
Et sous les radars avec vous, Kevin Dufresne, ça commence d'abord en Inde, où Narendra Modi a voté aujourd'hui.
Oui, le Premier ministre sortant qui brigue un troisième mandat et qui est estimé à la sortie du bureau de vote que ces élections marathon en Inde sont un exemple de démocratie, alors que l'opposition l'accuse régulièrement de dérive autocratique. Ces élections, elles sont aussi marquées par l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la campagne. Et aujourd'hui, la commission électorale indienne a lancé une mise en garde générale à l'attention de tous les partis contre, je cite, l'utilisation abusive d'outils basés sur l'IA pour créer des deepfakes qui propagent la désinformation. La commission demande notamment de ne pas diffuser de fausses vidéos ou de faux messages audio. Les partis devront les retirer en cas de notification de la part des autorités sous 3 heures. Il y a quelques jours, la police a arrêté le responsable des réseaux sociaux du principal parti d'opposition en Inde, soupçonné d'avoir falsifié une vidéo du ministre de l'Intérieur pour lui faire tenir des propos qui n'étaient pas les siens.
Et nous voici au Mexique, dans la baie de Chetumalé, sûrement, ça doit se prononcer
absolument.
Tout au sud.
Et oui, c'est là qu'il y a un an, les scientifiques ont découvert un trouble, une cavité sous-marine circulaire d'une centaine de mètres de diamètre, une sorte de grotte, mais sous l'eau. On appelle ça comme ça parce qu'à cause de la profondeur, l'eau apparaît d'un bleu plus foncé que la mer qui l'entoure. Découvert l'an dernier donc, sauf qu'en fin de semaine dernière, les scientifiques ont révélé que ce trou bleu était le plus profond jamais découvert dans le monde, puisqu'il descend au moins jusqu'à 420 mètres sous la surface. Concédant qu'il n'avait pas encore réussi à atteindre le fond, c'est en tout cas bien plus que le trou du dragon situé en mer de Chine méridionale et qui ne fait que 300 mètres de profondeur. Les recherches vont maintenant se poursuivre pour connaître sa taille exacte. Les spécialistes pensent même que ce trou bleu pourrait être la porte d'entrée vers un système de grottes et de tunnels qui le relierait à la mer des Caraïbes.
Et nous sommes donc aux États-Unis avec un papy de la politique.
Mais cette fois, ce n'est ni Joe Biden, 81 ans, ni Donald Trump, 77 ans. Non, il est encore plus vieux, si j'ose dire. Bernie Sanders, bientôt 83 ans. Et il vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux qu'il se présente à nouveau aux élections sénatoriales qui auront lieu le 5 novembre, en même temps que la présidentielle. Le sénateur indépendant du Vermont est donc candidat à un quatrième mandat de 6 ans, soit jusqu'à l'âge vénérable de 89 ans en cas de réélection, sachant que le sénateur l'a emporté avec 67% des voix en 2018. Bernie Sanders, indépendant mais plusieurs fois candidat aux primaires démocrates, figure de la gauche américaine qui se revendique socialiste, ce qui n'est pas rien aux États-Unis ces dernières semaines. Il se montre très critique du soutien de Washington à Israël. Voilà de quoi alimenter en tout cas le débat sur l'âge du personnel politique américain et sur la longueur des carrières aussi, hein, puisqu'avant d'être sénateur, Bernie Sanders a été représentant au Congrès. Il est donc élu depuis 33 ans.
Kevin Dufresne, merci beaucoup. Kevin, est-ce que vous connaissez Indy Zara ?
Pas encore.
Eh ben, il va falloir faire connaissance rapidement parce que vous partez avec elle, vous vous mettez au tango, figurez-vous.
Allez, allons-y, dansons.
Beautiful tango.
Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? If we
Indie Zara, Beautiful Tango sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50, c'est Franck Madvon.
Fabienne Sintès. Le 18-20.
Franck, en Russie, Vladimir Poutine a été investi aujourd'hui pour un cinquième mandat. Et ce soir, vous nous dites pourquoi la société russe est profondément renouvelée, remodelée sous ce président.
Oui, on le dit souvent, Vladimir Poutine n'est pas seulement en guerre contre l'Ukraine, il est en guerre contre l'Occident et le modèle démocratique. En prêtant serment ce matin devant l'élite politique du pays, le président russe a présenté sa fonction comme un devoir sacré. Il est engagé dans un combat qui va en fait bien au-delà du conflit en Ukraine. Poutine veut marquer son époque, entrer dans les livres d'histoire, transformer profondément le pays qu'il dirige depuis un quart de siècle. Ce cinquième mandat vise à écrire un nouveau chapitre du récit de la grandeur russe qu'il souhaite léguer aux prochaines générations. Et c'est aussi en cela qu'il voit son rôle comme un devoir sacré.
Et il y a donc une dimension religieuse, Franck.
Oui, c'est ce que montre une enquête très fouillée du bureau du Washington Post en Russie. Certes, pour Vladimir Poutine, son pays doit redevenir une puissance géopolitique. Il avait développé son argumentaire en 2007 à la conférence de Munich sur la sécurité, en dénonçant l'hégémonie américaine. Par la suite, la Russie est intervenue en Géorgie en 2008, en Crimée en 2014, en Syrie en 2015, et sur plusieurs fronts, bien sûr, en Ukraine en 2022, sans compter le déploiement de troupes dans des pays africains. Mais dans le même temps, raconte le journal, Poutine a aussi transformé la société russe en s'appuyant sur les valeurs orthodoxes. Il a conduit son pays sur un chemin ultra-conservateur, puritain, où la famille nombreuse est érigée en modèle, les LGBT sont présentés comme des ennemis, toute forme de contestation est étouffée.
Poutine fait ainsi de son pays, Franck, un anti-modèle occidental.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, le dit au Washington Post, diffuser les valeurs traditionnelles est très important pour nous, des valeurs que les pays européens, selon lui, abandonnent. Dans la Russie de Poutine, la femme élève ses enfants et l'homme travaille ou porte l'uniforme. L'armée est glorifiée. Le symbole Z peint sur les chars russes en Ukraine se répand aujourd'hui dans toute la société. Et à l'école, à partir de septembre prochain, un cours sera consacré aux bases de la sécurité et de la protection de la mère patrie. Vladimir Poutine convoque l'histoire pour servir son récit. La Seconde Guerre mondiale est instrumentalisée. Chaque année, le 9 mai, ce sera après-demain, la Russie célèbre la capitulation nazie. Poutine ne cache pas son admiration pour Staline. Il a fait ériger des dizaines de statues à son effigie. Les crimes du stalinisme sont effacés des manuels d'histoire. L'ONG Mémorial qui les documentait a été dissoute.
Le cinquième mandat de Vladimir Poutine, pardon Franck, ira-t-il dans le même sens?
Oui, ça ne fait guère de doute. Le président russe va chaque année plus loin dans la confrontation avec l'Occident. Il est renforcé par son élection triomphale, 88% des voix, et par la position aujourd'hui plus favorable de ses troupes en Ukraine. Poutine militarise la Russie, il endoctrine les enfants à l'école, même les scientifiques sont contestés, plusieurs ont été accusés de trahison. Dans le Washington Post, un proche du Kremlin affirme que la Russie subit aujourd'hui une révolution aussi profonde que celle de 1917. La population est mise au pas, partagée entre l'adhésion à ce nouveau système, le rejet et l'indifférence. Pour le moment, en tout cas, aucun contre-pouvoir ne peut freiner Poutine.
Franck Madvon, merci beaucoup. Encore pardon d'avoir totalement étouffé l'une de vos relances. On se retrouve demain, le mardi. On frappe avant d'entrer, comme d'hab.
France Inter. Le 18-20.
Évelan, comme on dit dans les BD, Caroline au pays des 27, avec Caroline Gillet, qui ouvre donc la porte d'un bureau européen ou presque européen.
Ou presque européen, d'organismes qui travaillent autour, en tout cas.
Exactement. Aujourd'hui, Caroline, c'est donc un bureau des institutions européennes qui s'appelle comment?
Alors aujourd'hui, on va dans un lycée. Et pourquoi? Parce que la participation et le vote des jeunes seront très surveillés le 9 juin prochain. Certaines se mobilisent pour leur expliquer la démocratie européenne, pas la plus simple ou la plus scrutée. En effet, dans cet épisode, on est à Rueil-Malmaison, à l'ouest de Paris, avec Françoise Blum. Elle a fait presque toute sa carrière à la Cour de justice de l'Union européenne. Et depuis la retraite, elle travaille avec l'association Parlons Démocratie. Ils organisent des rencontres avec des lycéens qui s'apprêtent à voter pour la première fois. Et vous allez l'entendre, dans cette classe, tous ne sont pas convaincus par le fonctionnement de la démocratie européenne. Voilà, on arrive au lycée Richelieu.
Écoute, Oui, bonjour madame, c'est Françoise Blum et Caroline Gillet.
Le bâtiment est tout en verre et assez récent.
Il est beau votre lycée, dis donc.
Oui, franchement, c'est très centre commercial.
À l'entrée, il y a encore des distributeurs de gel hydroalcoolique avec du gel dedans. Et on doit signer le registre.
C'est juste pour les pompiers aussi.
J'avais jamais compris, je crois, que les registres, c'était pour lancer une échelle à mon secours ou identifier mon corps dans les braises en cas d'incendie. On trotte toutes les deux derrière la professeure qui nous accueille, madame Palais. Moi, je suis un peu intimidée, je rate une marche.
Spécial, nous accueillons Madame Blum, qui est donc ancienne référendaire à la Cour de justice européenne.
Il y a 27 juges à la Cour de justice de l'UE, un par pays. Et le référendaire, c'est le plus proche collaborateur du juge. Avant de commencer la séance, j'ai le droit de poser quelques questions à la classe. Ils savent tous plus ou moins qu'il y a des élections en juin. Pour élire qui, je demande ?
Attention, je me déplace.
Et là, je découvre un bon client au fond de la classe.
C'est les députés européens qu'on élit et qui représentent du coup les pays de l'Union européenne, les pays membres, voilà.
Pour le reste, je ne sais pas si c'est mon micro ou la petite Françoise qui les intimide, mais il y a beaucoup de silence.
C'est quoi l'Union européenne pour vous ? Allez-y vraiment, tout simplement, combien de pays ?
Françoise commence courageusement sa présentation avec PowerPoint.
Oui. Oui. 27, tout à fait. L'état de droit. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'état de droit ? État de droit où vous avez... Non ?
Et là, tout d'un coup, j'ai Laura Pausini, la solitudine dans la tête.
C'est l'idée que les gouvernants et les gouvernés doivent respecter le droit à égalité. La loi est la même pour tous. Et qui est-ce qui va s'assurer que le droit est respecté ? Il y a un arbitre et c'est le juge.
Françoise liste tout ce qui a été mis en commun. L'euro, Ariane 6, Airbus, le grand emprunt face au Covid, les lois numériques dernièrement, les régulations communes pour la pollution, etc. C'est la fin du cours. Une rue sur mon bon client, le seul qui parle au fond de la classe.
Je ne suis pas du tout pour la sortie de l'Europe. Au contraire, je trouve que c'est bien qu'il y ait ce rassemblement de pays. Ça crée une union, notamment, c'est ce qu'on a vu avec l'Airbus. C'est que ça permet justement la création de grands projets qui soient...
Tu la verrais comment alors l'Union européenne ?
Comme De Gaulle la voyait, internationale, c'est-à-dire pour des décisions qui ne sont votées que pour vis-à-vis de l'étranger. S'il y a un problème de justice en France, selon moi, ça doit rester en France. Et les Allemands, les Bulgares, tous les autres pays n'ont pas à se mêler de ce qui se passe en France.
Pour que les marchandises ou que les personnes puissent circuler, il faut qu'on ait les mêmes règles. Il faut qu'il y ait un certain nombre de règles communes.
Mais c'est le cas du glyphosate. Je ne comprends pas pourquoi la justice française dit non au glyphosate. L'Europe dit, si au final c'est autorisé, au final c'est autorisé et on en a plein dans les céréales.
Mais contre, après, tu peux voter pour les écolos qui sont hyper anti-glyphosate et peut-être que s'ils sont majoritaires, la prochaine fois qu'il y a des décisions, ils vont avoir plus de poids.
Oh, c'est pas mon bord politique.
Pour et toi, tu sais alors pour qui tu vas voter ?
Non, le problème, c'est que je trouve qu'on est dans une société où c'est que les deux extrêmes qui jouent l'un contre l'autre. On n'a que le LFI et RN, mais je ne peux pas me permettre de dire qu'il faudrait sortir de l'Union européenne parce que, au vu de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, je me dis que la sortie de la France de l'Union européenne, ce serait vraiment pas un bon choix.
Pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait un socle de règles communes.
Moi, chaque pays est libre de faire comme il l'entend.
Mais là, tu as 27 pays, tu n'as pas, une Union européenne. Et dans quel domaine est-ce que tu serais prêt à accepter des lois qui valent pour tout le monde ?
Pour moi, c'est moi.
Sinon, tu as juste un grand marché.
Moi, la manière dont je le vois, c'est pas une union, mais une alliance européenne.
C'est Frexit.
Frexit. Oui. C'est la France qui sort de...
Là, tu es proche des deux extrêmes. Ils ne veulent pas de cette union qui légifère pour tout le monde. Ils préfèrent garder l'intérêt national. Donc les deux extrêmes considèrent que l'intérêt national est mieux servi par chaque État membre et qu'il ne doit pas y avoir justement de délégation de souveraineté à cet ensemble commun.
Voilà, Françoise n'a pas réussi à convaincre ce jeune qui sera peut-être sur les listes pour les prochaines élections européennes en 2029, mais pour quel parti ?
Bah, on n'en sait rien, mais enfin, c'est déjà ça de prix, j'ai envie de dire, parce que vous m'avez aussi laissé un chiffre, c'est Via Voice qui a démontré dans un sondage que 20% des sondés seulement sont capables de citer une mesure prise par le Parlement européen pendant la dernière mandature. Bah, le jeune homme là, il saura, Caroline. Oui, merci beaucoup. Vous revenez la semaine prochaine, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly. Et puis le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefebvre.
Bonsoir à tous.
Notre invité ce soir dans le téléphone sonne, c'est la gynéco que toutes les femmes voudraient avoir. Elle lutte contre les violences gynécologiques et elle s'appelle Amina Yamian.
Lisa, c'est un prénom d'emprunt. J'étais victime de violences gynécologiques à mes 19 ans. J'en ai 23 aujourd'hui et je soigne mon psychotraumatisme auprès de deux professionnels de santé. Et je me pose la question de porter plainte. Olivier sur WhatsApp, je suis père de fille et personnellement, c'est une de mes plus grosses craintes que mes enfants et même ma femme soient traités par des gynécologues qui exercent mal leur métier. Il y a un problème de confiance avec les gynécologues, écrit cet homme.
01 45 24 7000, c'est le numéro, on n'est pas rendu, même chemin par WhatsApp.